Ouais, on commence.
Merde. Il tient pas mon truc. Bonjour, j'espère que vous avez bien mangé. Donc là, on est réunis sur une heure pour parler des nouvelles pratiques et des nouvelles recherches spirituelles, un peu sur le banc de l'Église. Pour donner une image, vu qu'on est au pied des pistes, c'est un peu ces skieurs hors piste qui, bien souvent, on peut même filer l'image encore, parce que c'est bien souvent ces skieurs qui ont les techniques, qui les ont apprises, comme on est l'héritier d'une famille catholique, mais qui ne vont pas choisir forcément de descendre sur la piste bleue, la piste rouge, qui vont peut-être choisir le hors-piste à travers sapin. Et pour eux, hein, c'est une quête souvent personnelle. On va le voir pendant cette heure de réflexion et de débat. Virginie Larousse est rédactrice en chef du Monde des Religions, du groupe Le Monde. C'est un bimestriel qui publie à 50 000 exemplaires. Donc là, ce sera une présentation générale de ces nouveaux chercheurs spirituels, mais il faudra aussi pas hésiter à poser des questions sur sa propre expérience. Et moi, je suis journaliste à Panorama. Donc là, c'est le groupe Bayard Press. C'est un mensuel de spiritualité. Donc c'est quand même deux médias différents, mais on a quand même pas mal de domaines d'acquaintance. Donc voilà. On va démarrer tout de suite. Virginie, tu peux peut-être nous dire ce qu'on entend par le mot spirituel, parce que là, il y a quand même une grande différenciation à faire entre religieux et spirituel sur le plan sociologique et d'autres plans.
D'accord. Alors bonjour à toutes et à tous. Alors on en a déjà parlé ce matin et je pense que vous, de toute façon, vous en étiez rendu compte par vous-même, mais un des paradoxes de nos sociétés modernes et sécularisées, c'est que même si effectivement notre culture est en voie de sortie de la religion à proprement parler en tant qu'institution, eh bien à côté de ça, la religiosité et le sentiment spirituel ont tendance à prendre de l'ampleur. Et c'est quelque chose qui ressort dans les enquêtes qui ont pu être faites ces derniers mois, avec donc trois tendances principales, même si je ne vais pas vous assommer de chiffres, mais juste pour vous donner une petite idée. Trois tendances religieuses principales. Donc d'un côté, un essor de l'incroyance. Il faut savoir qu'en 2015, il y a eu une grosse enquête de l'Observatoire Sociovision sur les pratiques religieuses des Français. Et en fait, 43% des Français déclaraient être ni croyants ni pratiquants. Donc c'est quand même un chiffre assez énorme. La deuxième tendance, c'est malheureusement le ressaisissement des fondamentalismes, essentiellement dans l'islam, mais aussi d'autres religions se sont concernées par la montée de phénomènes intégristes. Et le troisième point, qui est celui qui va nous intéresser donc, pour cet atelier, c'est la forte progression des nouvelles spiritualités. Parce qu'en effet, même si les religions instituées en tant que telles connaissent un certain désamour, eh bien ce désamour, pour autant, ne fait pas taire la quête spirituelle qui peut animer tout un chacun et la quête de sens. Et cette quête spirituelle, finalement, dans nos sociétés, s'est transformée au contact de la modernité et prend des cheminements, finalement, assez différents. Alors, pour te répondre, Fanny, ce qu'on entend par spiritualité, juste pour bien définir au niveau sémantique, parce que le terme de spiritualité n'est pas toujours très bien compris. C'est-à-dire que certaines personnes confondent spiritualité et religion, et de la même manière, on peut confondre spiritualité et développement personnel. Donc juste rapidement, pour garder une petite définition en tête, pour moi, en fait, la spiritualité, c'est tout ce qui concerne la vie de l'esprit, l'éveil de l'esprit, et tout ce qui permet, tout le cheminement qui permet de donner du sens à notre vie et d'apaiser les quêtes métaphysiques, les questionnements métaphysiques, pardon, qui taraudent l'être humain depuis la nuit des temps, qu'on peut résumer par quatre grandes questions fondamentales. Pourquoi est-ce qu'il y a quelque chose plutôt que rien? Pourquoi sommes-nous là? comment donner du sens à notre vie. Alors ça, c'est une quête vraiment très importante à notre époque. Et la dernière interrogation également fondamentale dans la spiritualité, c'est qu'est-ce qui nous attend après la mort. Ça, c'est une thématique constante qui taraude les chercheurs spirituels. Et finalement, donc, on peut dire aussi que la spiritualité, c'est toutes les actions ou toutes les voies d'exploration qui permettent de s'extraire d'une forme de matérialisme ou de consumérisme ambiant qui nous entoure quand même constamment. Alors, pour distinguer religion et spiritualité, pour moi, pour définir de manière assez simple, la religion, c'est quelque chose justement d'institué, comme on disait tout à l'heure, avec une dimension sociologique quand même importante, voire politique. Dans certaines sociétés, religion et politique et État sont strictement imbriqués. Donc, c'est quelque chose, on va dire, avec une dimension communautaire. Tandis que la spiritualité, ça, c'est quelque chose qui correspond davantage à un cheminement intérieur et qui est le cheminement d'un individu qui recherche donc un sens à sa vie. Donc il y a quelque chose d'intime et qui n'est pas forcément connecté à quelque chose de communautaire. Alors bien sûr, on peut répondre à une quête de spiritualité à travers l'expérience religieuse, ça c'est quelque chose de tout à fait possible, mais en même temps, on peut tout à fait effectivement être religieux, être spirituel, pardon, sans être religieux. Ce qu'on appelle la spiritualité laïque. C'est vrai que certains écrivains, notamment par exemple Luc Ferry, a beaucoup écrit sur ces questions. En d'autres termes, on peut inscrire une démarche spirituelle soit au sein d'une religion, soit totalement en dehors d'un cadre institutionnel religieux. Donc on pourrait dire que la spiritualité, d'une certaine manière, dépasse le religieux, puisqu'il n'y a pas de nécessité directe d'avoir une institution. En d'autres termes, donc, et pour résumer, la spiritualité, ce serait une aventure personnelle et souvent d'ailleurs une aventure non prosélyte, contrairement à l'aventure religieuse à proprement parler, alors que les religions donc, invitent plutôt à une aventure collective. Et surtout, la spiritualité ne prétend pas délivrer une vérité. Et d'ailleurs, on y reviendra tout à l'heure certainement, Fanny, mais c'est vrai que les chercheurs spirituels sont moins dans l'attente d'une vérité que d'une expérience qui les éclaire et qui leur permette de finalement trouver davantage de sens à leur vie. Et donc, pour distinguer spiritualité et développement personnel, même si les frontières sont souvent poreuses, de la même manière que les frontières sont poreuses entre religion et spiritualité, pour le développement personnel, ce qu'on peut dire, c'est que la spiritualité, le plus souvent, n'a pas de prime abord, en tout cas d'ambition utilitariste. C'est-à-dire qu'on s'inscrit dans une démarche de compréhension du monde, mais qui n'a pas vocation, par exemple, à mieux dormir ou à perdre du poids, à se sentir mieux dans sa peau. Enfin, il y a vraiment une dimension de reliance aux autres et à soi-même ou même au monde en général, mais pas de vocation utilitariste. Tandis que dans le développement personnel, même si encore une fois, les deux domaines sont quand même assez poreux, mais la démarche de développement personnel correspond souvent ou est souvent motivée par l'attente d'un résultat concret. Et d'ailleurs, les livres de développement personnel se présentent souvent comme un peu des livres de recettes pour effectivement mieux dormir, être plus productif au travail. Ça, c'est quelque chose qui est particulièrement qui ressort particulièrement à notre époque, ou guérir. Alors, les chercheurs spirituels ne se disent pas, comme vous l'aurez compris, donc ils ne se disent pas forcément croyants, ou du moins ils ne se disent pas croyants au sens classique du terme, parce que quand on demande à quelqu'un ce que tu es croyant, c'est vrai que par exemple, des personnes peuvent répondre bah, si pour toi croire en Dieu, c'est croire en un grand personnage barbu sur un nuage, non, moi je ne suis pas croyant en ce sens-là, mais qui peuvent croire pour autant à une forme de transcendance ou d'immanence, ou en tout cas il y a une connexion au sacré dans la démarche spirituelle. Et ces chercheurs spirituels sont souvent ouverts à une forme donc de sagesse universelle qu'ils relient d'ailleurs pour la majorité d'entre eux à une tradition familiale, parce que la plupart d'entre eux ne viennent pas non plus d'ex nihilo, donc ils ont reçu une éducation religieuse mais qu'ils transcendent finalement et qu'ils élargissent à d'autres traditions. C'est pourquoi on rencontre assez régulièrement à l'heure actuelle des catholiques qui se disent également bouddhistes ou qui se font une sorte de petite de petites, on va dire, recettes personnelles, sachant qu'à notre époque, c'est quelque chose qui est en plus facile à faire du fait de la mondialisation. On a accès à des textes qui viennent de la planète entière et de traditions religieuses extrêmement différentes.
Là, je rebondis sur ce que tu dis, ce qui est assez frappant, là, je suis journaliste à Panorama et on reçoit énormément de livres, justement, de méditation, d'expériences spirituelles. Quand on voit le succès qu'a eu le dernier livre de Mathieu Ricard avec Alexandre Jolien et Christophe André. Pourtant, ce genre de livre de témoignages, les maisons d'édition s'accordent pour dire que normalement, ce n'est pas un énorme succès, surtout aujourd'hui, parce qu'on en a à l'appel. Là, ça a connu un immense succès. Tu parlais d'expérience spirituelle. Est-ce que tu peux peut-être être plus précise dans les caractéristiques de cette recherche en fait, spirituelle, physiquement,
oui.
Mentalement?
Alors déjà, juste pour préciser un peu sur quoi on s'est basé pour faire ce petit exposé, c'est vrai qu'il y a eu une grosse enquête de l'Université de Strasbourg en 2015 qui a envoyé des questionnaires en fait, sur des lieux justement fréquentés par des personnes en quête de spiritualité, donc qui se basent quand même sur des questionnaires de 5 à 6 000 personnes. Donc c'est quand même un questionnaire important et qui permet d'avoir des retombées assez fiables sur le profil et les attentes de ces personnes-là. Alors cette enquête a été beaucoup relayée dans la presse, dans La Vie notamment, il y a eu une grosse enquête, dans La Croix, on va essayer d'être un peu corporate.
Mais, oui, c'est Jean-François Barbier-Bouvet
qui a mené en particulier cette enquête. Ouais. Alors, parmi les principales caractéristiques des personnes qui sont dans une démarche spirituelle, on peut dire, et c'est probablement l'aspect le plus frappant, c'est qu'il y a vraiment une volonté de réconcilier le corps et l'esprit. C'est quelque chose de très important et qui va d'ailleurs un peu à l'encontre d'une certaine forme de tradition chrétienne occidentale où le corps est souvent considéré comme plus une contrainte qu'autre chose, dont il faudrait d'ailleurs se libérer pour finalement élever l'âme. Or, dans la démarche spirituelle, souvent, il y a un intérêt très fort également qui est accordé au corps, d'où l'importance accordée aux pratiques corporelles pour justement élever l'esprit. Donc les pratiques corporelles, je pense que vous les connaissez tous, ça peut être par exemple le tai chi, tous les arts martiaux,
le
qigong, le yoga qui est effectivement extrêmement populaire. Et surtout, le phénomène le plus marquant ces dernières années, c'est l'essor énorme de la méditation qui est énormément pratiquée. Alors, soit dans une dimension effectivement vraiment de reliance à quelque chose de sacré, soit dans une dimension beaucoup plus axée développement personnel et un peu plus utilitariste, d'être plus concentré au travail, plus efficace. Mais en tout cas, c'est sûr que la pratique méditative, c'est celle qui a le plus le vent en poupe, même davantage que le yoga à l'heure actuelle.
Une expérience physique.
Voilà, une expérience qui allie corps et esprit. Les pratiques artistiques sont également extrêmement en vogue, que ce soit donc la pratique de la musique, la pratique d'art plastique, parce que souvent ce sont aussi des personnes qui sont en quête et qui portent une attention à tout ce qui concerne les pratiques liées à la contemplation, d'où l'intérêt par exemple pour la photographie, pour l'art, pour la peinture, dans l'idée donc de se reconnecter à soi et de trouver finalement des images ou des photographies inspirantes qui favorisent une forme de ressourcement. Ce sont également des personnes qui pratiquent donc des exercices spirituels. Alors, on entend par exercice spirituel, ça peut être la prière. Dans la tradition plus orientale, ça va être la répétition de noms de Dieu, de choses comme ça. Ils peuvent aussi également lire des textes, alors soit qu'il s'agisse de textes sacrés à proprement parler, donc les textes des grandes traditions religieuses, soit des textes inspirants, mais qui viennent de l'univers profane, par exemple Le Petit Prince. Enfin, il y a toute une littérature qui est effectivement inspirante aussi pour les personnes qui sont en attente de développement spirituel. Et bien sûr, certaines pratiquent les retraites. Retraites soit dans des lieux religieux type monastère chrétien ou même monastère bouddhique. En Périgord, notamment, il y en a qui est très fréquenté. Ou tout simplement fréquentation également de la nature, la forêt, etc. Beaucoup d'exercices justement d'exercices physiques dont on parlait tout à l'heure se font dans des espaces naturels pour favoriser justement toute cette dimension de reliance. Et dans les villes, quand même, les chercheurs spirituels arrivent à se retrouver dans des lieux dédiés, par exemple à Paris, le Forum 104. Il existe des lieux un peu partout en France.
C'est peut-être le prisme journaliste qui veut toujours cibler les lecteurs qui veut aller chercher, mais est-ce qu'on a une idée de qui sont plus précisément dans leur pratique? Là, on l'a bien défini, mais est-ce qu'on sait à quelle tranche d'âge on s'adresse? Est-ce que, où on s'adresse, ou auquel on s'intéresse, là, en tout cas aujourd'hui? Est-ce qu'on sait de quelle classe socio-professionnelle ils viennent?
Alors en fait, ces personnes, donc d'après l'enquête de l'Université de Strasbourg, ce qu'on peut dire, c'est qu'ils sont souvent plus diplômés que la moyenne. Ce qui ne veut pas dire, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, que les personnes en quête de sagesse, de spiritualité sont des bobos. Parce que ce qu'on constate en regardant les chiffres, c'est que finalement, ils sont surdiplômés par rapport à la moyenne, mais qu'en revanche, ils travaillent dans des secteurs qui sont peu rémunérateurs. Donc c'est beaucoup ce qu'on appelle les créatifs culturels, donc les enseignants, les personnes qui sont en contact, les éducateurs par exemple, beaucoup également les professions liées à l'information ou à la communication, les personnes dans le domaine des arts et des spectacles, et également beaucoup toutes les professions en rapport avec le soin apporté à l'autre, donc thérapeute, infirmier, sophrologue, enfin des personnes plutôt issues de ces catégories professionnelles. Ce sont également des personnes qui sont légèrement plus urbaines que rurales, mais la France, dans son ensemble, est concernée finalement par cette démarche. Donc ça n'est pas non plus qu'un phénomène urbain. Donc là encore, ça casse l'image de quelque chose de bobo. Par contre, les trois quarts de ces personnes sont des femmes. Donc il y a trois femmes pour un seul homme. Donc il faut croire que les femmes cherchent davantage à donner du sens à leur vie que ces messieurs. Et ce sont plutôt...
Peut-être qu'ils l'ont trouvé déjà. Hein.
Oui, voilà. Peut-être qu'ils sont plus doués que nous pour ces choses-là. Et ce sont plutôt des personnes qui sont en milieu de vie, c'est-à-dire dans la tranche d'âge 40-70 ans. C'est intéressant de constater que les personnes plus jeunes, souvent, s'inscrivent encore assez peu dans cette démarche de questionnement, ce qui peut se comprendre. À la limite, on peut dire qu'on est plus, quand on est jeune, vraiment dans l'idée de profiter, et qu'après, le questionnement sur la vie vient plutôt au moment de la crise du milieu de la vie. Mais c'est vrai qu'on peut être surpris de voir que les plus de 70 ans ne sont souvent pas inscrits dans cette démarche. Alors, on peut penser que c'est lié au fait que les personnes qui ont actuellement 70-80 ans sont des personnes qui sont vraiment nées dans une période de désaffection profonde du religieux et qui sont dans une démarche un peu post-68-arde de rejet total de cette forme de quête, d'autant qu'ils ont vécu les 30 glorieuses, donc une période extrêmement favorable. Et c'est vrai que ce sont des générations qui ont tout eu. Ils ont eu l'emploi, la protection sociale. Donc peut-être ils se posent moins de questions que la génération suivante par rapport à ces problématiques. Comme on vous le disait tout à l'heure, donc au niveau de la généalogie religieuse, ils ne reproduisent pas forcément la religion de leurs parents, même si pour une majorité d'entre eux disent que finalement, ils ont vécu une forme de butinage spirituel, qu'ils sont allés chercher dans différentes traditions religieuses, mais qu'au final, ce butinage les a ramenés vers leur tradition d'origine. Et ça, c'est intéressant parce qu'on a plutôt tendance à penser l'inverse, que cette quête va éloigner les personnes de leurs racines, alors qu'au fond, ça les éloigne un temps, mais ça les ramène, et qu'après, finalement, ils explorent leur propre tradition initiale, de manière d'ailleurs souvent un peu plus ouverte, on va dire moins orthodoxe. Les personnes qui retournent à la tradition chrétienne ne vivent pas forcément leur religion de manière extrêmement orthodoxe, ils n'ont pas forcément une pratique religieuse intense, mais ils réinvestissent en tout cas souvent leur tradition initiale de manière différente, mais ils y retournent. Alors souvent également, on a tendance à dire, c'est un lieu commun sur les personnes en quête de spiritualité, que ce sont des personnes qui sont extrêmement auto-centrées, tournées sur elles-mêmes, très émotives ou avec des problèmes de gestion finalement des émotions. Alors que l'enquête, là justement, montre bien qu'au contraire, ce sont des personnes qui ont une forte exigence intellectuelle et qu'ils ont une grosse attention aux autres. Donc ce ne sont pas des personnes, contrairement à la démarche purement développement personnel, ce sont plutôt des personnes qui sont dans une optique d'ouverture aux autres et en quête d'exemplarité pour eux-mêmes. Par ailleurs, ils ne sont pas du tout en retrait de la société. C'est un autre lieu commun. On a l'idée que ce sont des personnes qui vivent un peu dans leur bulle, qui font des retraites constamment pour se couper de la société. Or, ce n'est pas du tout ça. C'est vraiment l'idée de prendre un peu de temps, de retourner vers soi pour ensuite mieux investir justement le champ social et s'impliquer. Souvent, ce sont des personnes qui sont très impliquées également dans la vie associative. Donc, là encore, ça casse les idées reçues sur ces personnes. Et s'il devait avoir une devise, parce que moi j'aime bien les devises, ça pourrait être celle de Gandhi, soit le changement que tu veux voir pour le monde. C'est vrai qu'il y a l'aspiration chez eux à aller vers de nouveaux paradigmes, mais sans pour autant être prosélyte. Ça, c'est quelque chose vraiment d'important. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette volonté d'exemplarité et de travailler la société, mais sans aller pousser les autres à s'inscrire dans une démarche similaire. Il y a vraiment quelque chose de finalement de respectueux par rapport à autrui. Donc pas de prosélytisme, mais alors juste pour donner un peu une idée de leur lecture. C'est vrai qu'on peut distinguer quand même deux types de spiritualité, même si les deux se rejoignent, mais c'est vrai qu'on peut distinguer une spiritualité grand public qui s'adresse vraiment à tout un chacun, et une spiritualité que j'ai envie de dire plus intello, plus intellectuelle. Alors, il ne s'agit pas du tout d'un jugement de valeur de ma part. Il faut savoir aussi aller chercher les gens là où ils se trouvent. Et à la limite, c'est bien que certains auteurs aient su trouver les clés pour justement intéresser les lecteurs qui viennent de milieux qui ne sont pas forcément du tout ouverts à ces questionnements, mais avoir su les mener vers ces questions. Mais en tout cas, c'est vrai que dans la spiritualité grand public, il y a certains auteurs qui sont très en vogue, enfin je pense que vous les connaissez tous. On peut dire par exemple Laurent Gounel, Paolo Coelho, l'alchimiste a eu beaucoup de succès par exemple, Frédéric Lenoir pour être un peu corporate encore une fois, Eckhart Tolle qui est très populaire également sur tous ces livres qui concernent vivre l'instant présent. Alexandre Jolien et à mi-chemin entre spiritualité, on va dire grand public et spiritualité intellectuelle un peu plus intello, il y a Christophe André, également très populaire, Mathieu Ricard, Fabrice Midal, enfin il y aurait des tas de noms à citer, Pierre Rabhi, puisqu'il y a aussi tout plein de penseurs dans la tradition écologiste qui s'inscrivent également dans une démarche spirituelle. Et au niveau donc de la spiritualité que je qualifierais de plus intellectuelle ou en tout cas plus contemplative, on a des auteurs qui sont donc moins connus du grand public, par exemple François Cheng, Christiane Rancé, Jacqueline Kellen, Marion Muller-Collard, le rabbin Pauline Bebb, Annick de Souzenel, qui fait des écrits quand même très exigeants, qui nécessitent quand même d'avoir un bagage derrière pour pouvoir les comprendre, parce que c'est pas quand même donné. Tout son travail sur le symbolisme du corps humain est quand même très, très poussé, et pas forcément facile à appréhender de prime abord. Ou des personnes comme Thich Nhat Hanh, enfin, il y a toute une gamme de personnes. D'auteurs qui sont connus dans ces sphères. Les magazines qu'ils lisent, il y a évidemment toute une panoplie également. On va essayer de parler, y compris de la concurrence.
Avec ces personnes.
Donc il y a par exemple Source, L'Inexploré, qui est plus sur des phénomènes, on va dire, paranormaux, extraordinaires. La Vie, Panorama, donc Le Monde des Religions, même si on y reviendra, nous on est à mi-chemin entre vraiment des problématiques religieuses à proprement parler et spirituelles à côté. Et il y a tout un tas de magazines à mi-chemin entre spiritualité et développement personnel qui fleurissent en ce moment. Par exemple, Happiness, Flow, je ne sais pas si vous connaissez. Psychologie Magazine s'inscrit un peu dans cette démarche. Et puis, il y a également un MOOC qui s'appelle Ultreya.
Il y en a d'ailleurs qui sont nés de cette tendance, en fait.
Complètement.
Ce qu'on observe aussi, c'est qu'on a beaucoup vu partir en sac à dos en Asie, des jeunes parfois même qui avaient un bagage, une famille catholique et qui, c'était peut-être par rébellion, en tout cas, ils voulaient trouver autre chose. Et finalement, quand on parle avec des moines ou des sœurs qui sont en France dans leur couvent tranquille, dans leur cloître, il y a de plus en plus de gens qui viennent les chercher, les interroger, qui viennent faire des sessions et qui sont d'horizons très très différents et qui d'ailleurs, certaines sœurs disent, ils nous ouvrent aussi sur le monde parce qu'on n'est pas forcément habitué à côtoyer des gens qui sortent de milieux si variés. Et qui ont des recherches aussi si différentes, mais qui sont quand même très, très intimes et personnelles. Donc déjà, on se demande aussi comment tout ça peut évoluer. Est-ce que ces personnes qui partent si loin chercher une vérité intérieure, finalement ne la retrouvent pas au bout du chemin, juste à la porte d'à côté, sans rentrer forcément dans une église? Comment l'évolution se dessine là pour...
Alors c'est vrai que même si effectivement ces personnes, disons en quête de spiritualité, s'inscrivent dans un questionnement intemporel à proprement parler, puisque c'est des questionnements vraiment qui existent depuis, comme je disais tout à l'heure, hein, l'aube de l'humanité, on voit bien quand même qu'il y a des effets de mode dans ces pratiques ou dans les axes qui sont pris. Et Fanny, je pense qu'elle est trop jeune pour avoir connu ça, mais c'est vrai que dans les années 1970, c'était vraiment la mode du zen. Donc beaucoup de personnes, notamment dans les sphères intellectuelles, fréquentaient un moine zen ou un dojo. Enfin, il y avait vraiment toute une vogue pour le zen et d'ailleurs plus généralement pour le bouddhisme. Le bouddhisme est toujours en vogue à l'heure actuelle, mais enfin, il y a quand même un recul du bouddhisme par rapport à ce qui se faisait il y a un certain nombre d'années. Le yoga a été très en vogue des années, on va dire, 80 à 2000. C'est toujours une pratique en vogue, mais je trouve que l'effet de mode s'est un peu tassé. Et comme je vous disais tout à l'heure, à l'heure actuelle, pour moi, c'est vraiment la méditation qui tient le haut du pavé, avec une production éditoriale énorme sur ce champ. Nous, à la rédaction, on reçoit toutes les semaines 4 livres sur la méditation. Ça part dans tous les sens. Il y a une méditation donc laïque, une méditation directement plus inspirée du bouddhisme. Mais les traditions chrétiennes aussi, maintenant, redécouvrent la méditation, puisque finalement, ça a toujours existé aussi au sein du christianisme. Donc il y a vraiment un effet d'engouement pour la méditation extrêmement fort à l'heure actuelle. Alors c'est difficile après de dessiner des perspectives d'avenir parce qu'on n'est pas non plus médium, mais on peut penser quand même que dans les années qui viennent, probablement il va sans doute y avoir encore plus un essor de pratiques en lien avec la nature. À l'heure actuelle, on voit quand même un engouement assez important par rapport au chamanisme, même si d'ailleurs beaucoup de personnes qui s'intéressent au sujet ne savent pas vraiment ce que c'est et relient le chamanisme vraiment à l'Amérique latine, alors qu'au fond, au départ, c'est une démarche quand même plutôt sibérienne, mais on peut penser qu'en tout cas des pratiques qui vont être connectées directement à la nature vont rencontrer un essor, un engouement probablement très important, puisque finalement ça permet de conjuguer l'urgence écologique qu'on connaît à l'heure actuelle avec le besoin spirituel, et donc ça allie finalement une double démarche. Le chamanisme est donc en plein développement par rapport à ça. Il y a de plus en plus de personnes actuellement qui s'inscrivent, des ateliers qui se montent. Enfin, moi je trouve que c'est une tendance qu'on voit poindre en tout cas, et je pense aussi qu'il va peut-être y avoir justement un réinvestissement des traditions plus directement occidentales. Je pense par exemple à tout ce qui est néopaganisme, tradition celtique. C'est vrai que depuis les années 60-70, on a beaucoup été exploré en direction des traditions exotiques, parce que finalement c'est aussi plus facile d'avoir moins de préjugés par rapport à ces traditions que par rapport à nos propres traditions qu'on connaît. C'est vrai que la société française s'est beaucoup construite en réaction contre l'Église catholique, et donc du coup beaucoup de personnes qui étaient dans une quête spirituelle sont allées chercher dans d'autres traditions des réponses à leurs questionnements métaphysiques. Mais finalement, je pense que dans les prochaines années, on va probablement réinvestir nos propres traditions, en particulier en se rendant compte que finalement les traditions exotiques n'ont souvent un peu les mêmes avantages et les mêmes inconvénients, les mêmes travers que nos propres traditions. Récemment, il y a eu tout un scandale dans la communauté bouddhiste parce qu'une jeune chercheuse a fait une enquête dans certaines communautés bouddhistes de France, et elle a pointé des dérives presque sectaires, ou en tout cas des dérives un peu gênantes. Elle s'appelle Marion d'Absence. Et donc, je pense que avec l'effet de mondialisation, on a plus facilement connaissance de ce qui se passe à l'étranger et des problèmes éventuellement qui peuvent se poser, tout comme des aspects positifs, du bon comme de l'inconvénient.
Ce qui se passe aussi en Birmanie, quand on voit dans l'ouest du pays qu'en fait ce sont des groupes bouddhistes qui sont en train de persécuter les minorités musulmanes. Enfin voilà, on se rend compte qu'il y a aussi un bouddhisme guerrier, que cette religion qui était la religion de la neutralité, du milieu, en fait, connaît des dérives comme toutes les autres, en fait, que les extrêmes sont partout. Donc voilà, il y a aussi peut-être une désillusion qui peut naître de la mondialisation.
En tout cas, une vision plus éclairée, finalement, que par rapport à celle qu'on pouvait avoir dans les années 70, où finalement tout ce qui venait, tout ce qui était un peu exotique, était finalement auréolé d'une sorte de, d'aura de pureté. À l'heure actuelle, on voit bien que les choses ne sont pas aussi simples. Donc, à mon avis, dans les futures pratiques spirituelles qui vont être réinvesties, probablement des choses qui viennent vraiment du terreau occidental. Mais bon, encore une fois, c'est difficile vraiment de faire des projections sur l'avenir, puisqu'il y a quelques années, on pariait effectivement que la religion allait disparaître de la société et voilà, que le religieux allait s'éteindre, et qu'on voit bien à l'heure actuelle que ce n'est pas le cas. Donc, ce n'est pas une science exacte non plus.
Oui. La recherche ne s'éteint pas, en tout cas.
C'est sûr.
Donc, on va peut-être passer... j'imagine que vous avez des questions. Parfois en fonction du domaine dans lequel vous travaillez, voilà. Donc on va prendre un temps pour les questions. Peut-être j'ai pas bien précisé ce sur quoi, enfin la façon dont peut-être le monde des religions traitait les sujets religieux, spirituels, puisque ça va peut-être vous intéresser aussi de poser des questions à Virginie aussi sur la façon dont elle crée ses passerelles avec peut-être ses nouveaux chercheurs spirituels. Le monde des religions, c'est quand même une rédaction, je pense, qui est assez bienveillante vis-à-vis du fait religieux. Ça appartient au groupe Le Monde, donc moi qui viens de Bayard, je pense qu'il y a un traitement très différent à l'échelle du groupe. Je pense qu'il y a deux temps clés dans le monde des religions. Il y a celui qui va être un éclairage culturel et historique sur des faits religieux, sur des personnes qui ont existé. Voilà, parce qu'il y a cette recherche aussi de sens et de compréhension des origines qui est très fort dans les attentes de ces chercheurs-là. Et il y a aussi un autre volet, je pense, dans le monde des religions. Enfin, tu m'arrêtes si je me trompe. Hein. C'est une réponse plus dans des pages méditatives, où on sent qu'il y a une quête peut-être plus personnelle, plus intérieure, une quête de sens, où en fait on va peut-être plus mettre en avant des personnages qui ont incarné un petit peu ces questions de sens, des saints, des personnes qui ont inspiré.
Je dirais que par rapport à Bayard, nous, notre spécificité, c'est qu'on est un média laïque, non confessionnel, donc on n'est pas là pour faire l'apologie d'une tradition religieuse ou d'une autre. Du coup, c'est vrai que, même si vous, d'ailleurs, vous avez aussi un positionnement ouvert, hein, mais en tout cas, c'est vrai que l'autre spécificité qu'on a, c'est également que on ne traite pas que de spiritualité, c'est-à-dire pas uniquement d'une quête hors église, mais qu'on a aussi beaucoup de problématiques liées aux religieux. Donc souvent dans nos dossiers, nous au monde des religions, on a des dossiers qui sont très anglais sur des problématiques religieuses, type effectivement l'histoire du voile, des problèmes d'histoire des religions, des décryptages de textes sacrés, etc. Mais à côté de ça, en dehors du dossier, on essaie de trouver un équilibre finalement religion-spiritualité en réservant les rubriques hors dossier à des problématiques plus spirituelles, qu'on fait essentiellement d'ailleurs sous l'angle de portraits de personnes qui ont un itinéraire de vie inspirant ou de textes qui sont inspirants. Donc ça prend plusieurs biais, mais c'est vrai qu'on a cet équilibre entre religion instituée à proprement parler et spiritualité.
Je ne sais pas s'il y a un micro qui circule dans la salle ou si ça...
Il est là. C'est ça, là. Ouais, je pense.
Allô.
Bonjour, Faustine Fayette de Bayard Service. J'avais une question par rapport à quelle serait votre analyse de comment l'Église réagit face à ces personnes qui sont en quête de spiritualité, en quête de spirituel, en dehors de l'Église. Est-ce que votre analyse, ça serait plutôt, c'est une concurrence et l'Église essaye de les ramener? Est-ce qu'on voit des personnes qui ont un pied dans l'Église, un pied dans d'autres choses? Comment vous analysez ça, vous?
Bah, en fait, moi, de l'extérieur, enfin, après, peut-être, Fanny, tu donneras ton point de vue, on sent quand même... on les sent un peu gênés, finalement, et un peu désarçonnés par ces personnes qui, souvent, ont un profil atypique. Et comme je vous disais tout à l'heure, c'est pas souvent, le chercheur spirituel n'est pas le croyant modèle. Il doute beaucoup, il pose beaucoup de questions. Ses pratiques sont assez, on va dire, libres, assez peu orthodoxes. Et donc, il y a une forme, effectivement, de... oui, l'institution peut être un peu désarçonnée par ça. Et aussi, le vivre de manière un peu douloureuse, dans la mesure où souvent il y a cette conviction dans l'Église qu'eux-mêmes sont là pour répondre à ce questionnement et donc une incompréhension de pourquoi ces personnes finalement s'inscrivent dans une démarche extérieure pour répondre à un questionnement pour lequel elles s'estiment plus légitimes. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui peut effectivement déstabiliser en tout cas le clergé, souvent que, d'autant que effectivement l'Église et souvent les clercs sont assez peu formés pour répondre de manière peu dogmatique. Or, ces personnes qui sont dans cette quête spirituelle, comme je vous le disais tout à l'heure, ne sont pas en attente de dogmes ou de réponses toutes faites ou vraiment d'une vérité. Ils sont plus en quête vraiment d'une expérience et de quelque chose qui leur corresponde, même si ce qui leur correspond à elle peut ne pas correspondre aux voisins. Donc c'est assez désarçonnant, je pense, pour l'institution.
Oui, de toute façon, je pense que l'institution aujourd'hui accepte peu à peu de se déplacer parce que sinon, c'est sa fin. Donc d'une certaine façon, moi, je pense que ces personnes-là sont essentielles dans l'avancée de l'Église. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément les recruter à part entière, mais c'est accepter qu'il y a eu quelques lacunes aussi dans l'histoire de l'Église et qu'aujourd'hui, pour qu'il y ait une pleine adhésion du fidèle, il faut aussi être capable de répondre à des questions auxquelles on n'était pas habitué à répondre il y a 20 ou 50 ans. Voilà, donc ce que je pense, c'est que c'est aussi ces erreurs que l'Église paye aujourd'hui d'une certaine façon. Et d'ailleurs, quand les sœurs de Praille avec lesquelles on travaille à Panorama racontent ces personnes qui viennent comme hôtes pendant une semaine, les discussions qu'elles ont ensemble, elles ne sont pas du tout opposées. En fait, il y a un gros terreau humaniste qui est là de toute façon. Donc je ne pense pas qu'il y ait de concurrence, je ne pense pas que ce soit une question de recrutement non plus. Par contre, je pense que ça peut faire du bien. Les uns les autres peuvent s'apporter énormément dans les deux sens, en fait. L'Église a beaucoup à apprendre et à la fois les chercheurs spirituels peuvent trouver énormément de réponses dans l'Église, à condition que les portes s'ouvrent.
Je peux ouvrir le micro ?
C'était très clivant, pardon. Il y a quelques années, il y a peut-être 4 ans, lors de la préparation du FRAT, donc le pèlerinage des collégiens et lycéens d'Île-de-France, il y a plusieurs ateliers qui sont proposés pendant ce pèlerinage. Et il y avait un atelier yoga. Mmh. Et donc, ça a vraiment clivé. Au moment de la présentation, il y a vraiment eu deux camps. Il y a ceux qui étaient vraiment, bah oui, très bonne idée, on va ouvrir les jeunes à autre chose. Et l'autre camp, c'était, bah, enfin, c'est complètement absurde. Dans l'Église, on a la prière, c'est quand même ça la première chose. Il y a la prière, il y a l'oraison, il y a plusieurs choses. Pourquoi on va conforter les jeunes à aller chercher quelque chose en dehors de l'Église alors qu'on est là pour leur transmettre l'Église, enfin la foi, quoi. Et ça a été vraiment très clivant. Et je sais d'ailleurs même plus. Je pense que l'atelier a été fait, je crois. Je me souviens même plus, mais ça a vraiment créé une grosse discussion. Donc voilà, c'était juste un petit partage.
Oui. Bah quelque part, en fait, on peut, enfin. Évidemment, c'est probablement très abusif de se crisper là-dessus, mais c'est vrai qu'en Inde, le yoga, c'est pas simplement un exercice physique. C'est pas juste l'idée de prendre des postures plus ou moins acrobatiques avec plus ou moins de facilité. Il y a vraiment une démarche spirituelle et religieuse derrière. Donc, les personnes qui sont au fait de ça... dans le milieu catholique, on peut comprendre qu'elle soit désarçonnée. Après, c'est sûr que le yoga à l'occidental est pour le coup très édulcoré. C'est plus une gymnastique qu'autre chose.
Je ne sais pas, peut-être dans cette salle, moi, ce serait un bon test. Qui a déjà fait du yoga voilà, il y a quand même, c'est pas rien, quoi. Et c'est pas juste pour être à la mode. Et je pense que vraiment, si on demandait aux personnes qui viennent de lever la main pourquoi elles en font, je pense que c'est pas qu'une recherche de performance physique. Je pense que ça apporte un bienfait, un bien-être, et pas que, comme tu disais, de développement personnel. Je pense qu'il y a un bien-être physique qui est là et qui est essentiel dans la quête spirituelle à la fois. C'est-à-dire que tu parlais de ça, du fait qu'on proposait la prière ou le yoga. Peut-être que l'Église doit aussi réfléchir à faire des propositions plus physiques aussi à un moment donné.
Parce que ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a cette forme de négligence du corps en fait dans la tradition chrétienne. En tout cas, c'est perçu comme tel. Et du coup, on peut comprendre l'engouement pour des pratiques qui allient vraiment le corps et l'esprit. Parce que ça, c'est vrai que dans la tradition chrétienne, il y en a quand même assez peu. Enfin, à ma connaissance.
Vous avez fait une présentation très complète des personnes qui sont en recherche d'une quête spirituelle consciente. Mais moi, je suis très étonnée par des gestes inconscients de spiritualité qui sont tout le temps dans le domaine public, dès qu'il y a un deuil, et notamment ce qu'on a vu à un point énorme après les attentats de 2015 et de 2016, où, pour moi, des personnes qui n'étaient absolument pas croyantes et pratiquantes pratiquer un rituel extrêmement religieux, allumer une bougie, se recueillir, faire mémoire d'eux. Donc, comment vous analysez ça ?
Dans notre numéro du Monde des Religions actuellement en kiosque, on a justement tout un article là-dessus sur la République mystique. Puisque c'est vrai que finalement, même s'il n'y a pas de... La République n'héberge pas ou n'accepte pas de manière officielle les religions, on voit bien qu'il y a quand même un besoin de rites fédérateurs qui subsistent, y compris que ce soit en France, mais également, on le voit bien, même dans les pays athées comme la Russie, ces grands messes qui réunissent ce culte de la personnalité des dictateurs a quand même beaucoup de traits communs avec le religieux. Donc il est certain que la République doit se fédérer autour de gestes ou de rites, et que on met à la sauce laïque un vocabulaire, puisque même dans notre vocabulaire, quand on dit salut, c'est quand même un vocabulaire chrétien au départ. Dans notre vocabulaire, comme dans nos rites républicains, il y a toute une dimension assez transcendante, et également dans la justice. On a justement un papier également sur qu'on a appelé Sacré Justice, pour montrer à quel point la justice dans la République française est encore très marquée par un vocabulaire religieux, un vocable religieux. Et d'ailleurs, très récemment, je crois que ça date d'il y a 3 mois, les magistrats ne font plus serment. Avant, ils devaient jurer religieusement de respecter, le secret des débats. Et maintenant, ils n'ont plus à prononcer ce terme de religieusement. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement récent. Mais c'est certain que nos sociétés, sécularisées ou pas, sont marquées par des rituels, puisqu'il y a ce besoin, finalement, de se relier. Que ce soit de manière officiellement religieuse ou non. Il y a un besoin quand même de rites dans la société. Et d'ailleurs, également, le baptême républicain est en plein essor. Maintenant, je crois qu'il y a 30 ou 40% des enfants qui passent par le baptême républicain. Donc, c'est quelque chose d'énorme. Pardon ?
En termes de... Je pensais à la terminologie. Effectivement, quand on parle de méditation, tout le monde pense bouddhisme. Et finalement, dans la tradition chrétienne, il y a le terme contemplation qui pourrait réconcilier tout le monde. Est-ce que parfois, il n'y a pas juste une question d'utilisation du mot qui rendrait moins exotique ou plus politiquement correct ou...
Mais justement, je pense que dans un premier temps, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes, et notamment d'auteurs, qui sont soucieux de montrer qu'ils n'ont pas d'appartenance religieuse pour ne pas faire peur, et donner à penser aux personnes que finalement ils s'inscrivent dans une démarche religieuse, qu'ils vont prêcher pour une paroisse. D'où l'emploi de termes un peu aseptisés, de type méditation. Parce que si vous parlez d'oraison, on va se dire, attends, c'est chrétien, ça ne me concerne pas, moi, j'aime pas aller à l'église. Et donc, il va y avoir une réaction de rejet. Et la spirituelle, même le terme de spiritualité, parfois, laisse un peu également sur sa fin, puisque c'est vrai, quand on est dans une démarche de spiritualité chrétienne, pourquoi ne pas dire directement christianisme ? C'est compliqué. Mais en tout cas, c'est sûr que dans une société laïque, il y a quand même une grande méfiance par rapport à tout ce qui évoque le religieux, et donc un recours, on va dire, facile, comme par exemple la méditation laïque. C'est vrai qu'on nous parle sans arrêt de méditation laïque, tout en nous disant que ça reprend des pratiques bouddhistes. Moi-même, je vous avoue que des fois, j'ai un peu du mal à y voir clair. Hein.
La contemplation méditative.
Voilà.
Non, est-ce que je peux faire juste une remarque par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure ? Vous avez parlé de négligence du corps dans la tradition chrétienne. Ça mérite au minimum d'être nuancé. Parce que le christianisme, c'est la religion de l'incarnation, de l'esprit dans le corps. Et même saint Paul, il a dans ses lettres des textes sur le corps qui sont fondamentaux dans la théologie de l'incarnation. Et qui ont laissé des traces dans la tradition philosophique occidentale, à commencer par Nietzsche, qui était fils de pasteur et qui s'est beaucoup inspiré du concept de corps chez saint Paul pour parler, lui, du corps de manière nouvelle.
Oui, bien sûr.
Et ça, c'est une chose. Je voulais dire aussi que l'évangile, la moitié des choses qui se passent, ce sont des repas. Ça concerne quand même le corps. Et il y a aussi une dialectique de satisfaction et de jeûne. À la recherche d'un équilibre spirituel, vous évacuez le corps, il n'y a plus de christianisme.
Non, bien sûr, mais en termes d'exercice du corps, c'est par rapport aux traditions asiatiques, comme dans le taoïsme, où là, il y a une pratique d'art martial très important. C'est quelque chose, en tout cas, sur lequel l'Église a sans doute moins mis l'accent.
Il y a aussi une forte culpabilité qui rejoint le domaine du corps dans l'Église catholique. Peut-être François-Xavier, tu as.
Mais derrière, il y a quand même le jansénisme qui a laissé des traces très profondes.
Peut-être tu l'as dans le micro.
Il y a aussi l'héritage du jansénisme qui a laissé une marque très profonde dans la conscience. Je sais, mais les traces sont. Les conséquences sont encore prégnantes parfois.
En tout cas, il y a une vraie interrogation autour du corps, parce que ces chercheurs spirituels ne sont pas seulement dans une recherche de l'esprit, en fait. Ils sont vraiment dans un besoin d'exprimer leur corps en lien avec l'âme, en fait. Et ça, effectivement, je pense que l'Église, parfois, a fait du corps un lieu de culpabilité. En tout cas, moi, je le vois de ma génération... L'Église qui parle du corps sexuel, c'est forcément ringard. Ça ne devrait pas l'être. On a très vite affaire à une rupture, en fait. Que l'Église n'est plus forcément celle qu'on attend sur ce sujet, alors que, comme vous le dites, les fondements du christianisme sont totalement liés au corps.
Faire attention à l'influence de la métaphysique grecque du platonisme, la séparation de l'âme et du corps, la dévalorisation du corps.
Oui.
Madame.
Je ne sais pas quel procès on pourrait faire. Autre chose qui est centrale dans le christianisme, le corps, on parle du corps eucharistique, on parle de la communauté comme un corps, ce que Nietzsche d'ailleurs a très bien compris chez saint Paul. Il y a quand même dans le christianisme, pour arrêter de dire qu'il y a une négligence du corps, peut-être qu'aucune religion ne met au centre le corps. Alors, vous savez,
oui.
Mais ça, c'est pas chrétien.
Non, mais attention, il faut savoir. Vous, monsieur, vous, à mon avis, vous avez un bagage et une éducation qui vous permet aussi d'avoir eu un regard assez averti, une lecture surtout des textes
par rapport aux textes
qui est en profondeur et en vérité. Oui, mais je pense qu'il y a beaucoup d'héritiers aujourd'hui qui ont juste entendu leurs grands-parents parler de choses de façon peut-être plus naïve, en fait. Mm-hmm. Et la rupture vient aussi de là, en fait. C'est que soit une indifférence, soit une rupture, en fait, de ce message de l'Église. Non, mais il y a quand même des études sur la question.
Madame, là-bas.
Merci, François-Xavier.
Donc, Florence Châtel, je suis journaliste à Ombre et Lumière, un magazine qui est sur le handicap, où le corps est très prégnant. En fait, je suis vraiment d'accord avec ce que vous venez de dire tous les deux, là. Monsieur et puis François-Xavier, il me semble que c'est vrai que le jansénisme a laissé des traces qui sont encore visibles, mais en même temps l'Église a quand même beaucoup progressé, je trouve. Il y a de plus en plus de retraites qui proposent, notamment alors, par exemple dans la spiritualité ignatienne, des retraites qui proposent d'allier à la fois le corps et l'oraison. Et donc il me semble que quand même aujourd'hui les chrétiens et les catholiques ont beaucoup plus pris en compte cette dimension du corps, et peut-être que ce serait ça aussi qui sera à montrer quand même, plutôt que de rester toujours sur cette vision de l'Église qui s'est peut-être fermée à un moment. Et l'autre chose, que, quand je vous entends dire que ces personnes donc, qui sont chercheuses de spiritualité n'ont peut-être entendu que ça de l'Église, il me semble aussi que c'est le fruit, pas que de l'Église, mais d'un monde occidental dans lequel on vit, dans lequel l'intellectualisme est très présent. Mmh. Des gens qui ont un travail où ils sont beaucoup dans leur tête, mmh. où on est de moins en moins ancré avec la nature parce qu'on vit dans des villes qui sont énormes, et que finalement, c'est peut-être aussi ça qui fait qu'on cherche de plus en plus à être en lien avec son corps et avec la nature, et voilà, et à retrouver le moyen de descendre de sa tête ailleurs. En fait.
Effectivement, il y a une vraie proposition de l'Église aujourd'hui sur ce terrain-là. L'encyclique du pape François qui reconnecte tout. Je pense que c'est très précieux, en fait. Ce genre de texte montre aussi que non seulement l'Église y pense, mais y pense de façon très pertinente. Ce texte a été très reconnu par les plus grands spécialistes. Et pourtant, c'est un message de foi immense à la fois. Enfin, je veux dire, reconnecter tout, c'est ça le message de l'Église. Et je pense qu'effectivement, il y a eu une mauvaise lecture à un moment donné. Et il ne faut pas que l'Église le paye à long terme. Et je pense aussi que ces chercheurs spirituels montrent aussi... on parlait de concurrents, non, ils bousculent aussi, ils cherchent des réponses et ils vont dans des couvents chercher ces réponses. Donc ça montre bien qu'ils savent que l'Église n'est pas perdue. Enfin voilà, on n'a pas affirmé que le corps était en dehors de la religion catholique, hein, pas du tout. Hein.
Mais et au-delà de ça, moi il me semble que c'est plutôt quelque chose qui nous réunit tous dans un mouvement d'ensemble par rapport à une société qui peut-être nous met un peu trop dans la tête. Et alors si j'ai une suggestion, c'est d'aller rencontrer les personnes handicapées, parce qu'en tout cas, elles sont bien dans leur corps et elles vont directement nous relier au corps.
Est-ce qu'il y a de nouveaux chercheurs spirituels, vous avez l'impression, dans le milieu du handicap? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a aussi une recherche
exemple,
un peu parallèle?
À l'Arche, il y a beaucoup de jeunes qui arrivent à l'Arche pour être assistants, qui, par l'intermédiaire des personnes handicapées, font la découverte d'une forme de spiritualité, oui. Et donc, elles partent d'un corps blessé et elles sont juste ramenées à la simplicité d'un cœur à cœur à certains moments. Enfin, donc oui, ça, c'est des vecteurs directs.
Merci.
Je pense qu'il y a une question devant d'Emmanuel Pella.
Je vais parler fort. Emmanuel Pella, je suis journaliste. Donc
Attends, il y a le micro qui arrive.
Voilà, Emmanuel Pella, Radio Présence. J'avais une question pour donc vos deux journaux. C'était, est-ce que vous pouvez nous dire un peu quelle est la typologie de vos lecteurs et quels sont les lecteurs, enfin parmi vos lecteurs, ceux qui ressembleraient à ces chercheurs de sens que vous avez décrits, et comment vous arrivez à les toucher? Est-ce que vous avez un tout petit peu de retour là-dessus?
Alors nous, en fait, au monde des religions, on a déjà deux types de lecteurs en fonction de si on regarde qui sont nos lecteurs du magazine papier et nos lecteurs web. Donc sur le magazine papier, c'est un lectorat qui est plutôt âgé, même franchement âgé, et qui effectivement, et comme je vous le disais tout à l'heure, vraiment à la fois intéressé par des problématiques d'histoire des religions à proprement parler ou religieuses à proprement parler, mais avec un besoin aussi de
prendre un peu de hauteur et donc intéressés par voilà, des exemples édifiants, que ce soit dans l'histoire ou à l'heure actuelle, de personnes qui ont mené comme ça une vie exemplaire, donc dans une démarche spirituelle. Donc ils sont vraiment sur les deux versants de ces sujets. Par contre, sur le web, c'est vrai qu'on a un lectorat qui est beaucoup plus jeune, pour le coup, ce qui paraît assez logique. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, moi, je les trouve très, très intéressés par le fait religieux à proprement parler, donc en tant que phénomène social qui a des répercussions sociétales et politiques, moins par des problématiques spirituelles, sauf quand il s'agit vraiment de parler de phénomènes un peu New Age ou d'expériences de mort imminente. Mais la quête de sens en tant que telle, on voit bien que c'est pas forcément leur de thé à proprement parler, ça sera pour plus tard. Donc on a vraiment ces deux versants, enfin ces deux typologies de lecteurs assez différents.
À Panorama, ça va être assez différent dans la mesure où il y a quand même une identité d'appartenance quand même à la communauté chrétienne. Déjà, c'est des abonnés, il n'y a pas de vente en kiosque pour Panorama, donc c'est 35 000 abonnés qui chaque mois mettent l'argent pour recevoir leur revue. Donc il y a une vraie fidélité, une vraie régularité. Pareil sur la tranche d'âge, je pense qu'on va être à peu près pareil, mais il ne faut pas se mentir, les gens qui lisent la presse écrite, c'est ça pour tous les journaux en général, même l'Express, c'est même tarif pour tout le monde sur ce plan-là. Maintenant, c'est nos plus fidèles lecteurs. Moi, je vois à Panorama, c'est souvent un complément, c'est-à-dire le groupe Bayard propose aussi des abonnements à La Croix. Il va y avoir aussi La Vie, Pèlerin, etc. Panorama va venir un peu en supplément à cette offre-là. Les lecteurs attendent peut-être une plus grande évasion, un temps plus long, plus lent, à travers la lecture de Panorama. Ils sont aussi, quand on reçoit des courriers de lecteurs, ils sont aussi très en attente de choses incarnées, en fait. Si on a été un peu trop théorique ou pompeux ou quoi, on se prend un revers bien radical, en fait. Hein. Le mois suivant, on a un lecteur ou plusieurs qui nous écrivent « j'ai pas compris votre truc, quoi ». Enfin, moi, j'aime bien quand... Voilà, ils aiment quand on parle des gens, quand on parle de la vie, quand on parle de même des jeunes. Enfin, franchement, qui que ce soit, mais ils aiment que ce soit incarné, ils aiment que ce soit vécu, ils aiment que ce soit de l'ordre de l'expérience. Donc là, je pense qu'on est toujours dans cette question d'expérience. Et après, la particularité aussi peut-être de Bayard, c'est qu'on organise des voyages lecteurs. Et pour les journalistes, c'est aussi un temps précieux parce qu'on les rencontre, en fait, ces lecteurs. Et là, on voit qu'on a affaire à des gens... qui ont souvent des vies pas si faciles, un enfant handicapé, qui ont vécu un drame, etc. Et pour qui, en fait, Panorama va être un lieu pour se ressourcer, pour se retrouver, pour donner du sens, en fait, à leurs épreuves. Ouais. Une autre question ? On est un peu sorti du sujet, mais sur les chercheurs spirituels, peut-être qu'on n'a pas non plus fait... tout le tour de la question, je ne sais pas, ou peut-être que finalement il faut aussi qu'on s'arrête.
Il reste 5 minutes, ouais. Donc si vous avez même des témoignages en fait, à apporter, n'hésitez pas. Monsieur.
Merci. Alors il faut l'allumer, je pense. Ouais.
Merci. Je suis Célestin Obama, je suis journaliste. Quand j'ai vu le thème, et ce qui a motivé mon choix de cet atelier, c'est que je voulais comprendre pourquoi est-ce que les gens essaient de trouver ailleurs ce qui, entre guillemets, n'est plus présent au sein de l'Église. Et mes lectures sur le sujet m'ont amené à être d'accord avec quelqu'un comme le père Bernard Cesbouy, qui dit que beaucoup de chrétiens catholiques, précisément, sont restés au niveau du catéchisme. Et qu'on remarquait ces derniers temps des gens qui s'inscrivaient pour apprendre la théologie parce qu'ils voulaient en savoir un peu plus.
une manière également de dire qu'au sein de l'Église catholique, moi j'ai l'impression que toutes ces forces spirituelles se retrouvent seulement, soit elles sont gardées, conservées par le clergé, les clercs, et, ou alors les simples fidèles eux-mêmes ne font pas un effort de s'avancer, d'aller un peu plus loin. Et moi je viens de l'Afrique subsaharienne, l'Église nous est venue par l'Occident, l'Église catholique notamment. L'un des appâts était de dire que avec le christianisme vous allez sortir de la pauvreté, et aujourd'hui vous arriverez chez nous, les églises sont pleines, les gens se bousculent aux entrées, aux sorties chaque dimanche, c'est une foule immense, mais au fond on sent quand même qu'il y a un vide et un syncrétisme revient. Pourquoi? Parce que les gens ne trouvent pas tout ce qu'il leur faut au sein de l'église. Et conséquence, ils vont à la messe le matin. L'après-midi, ils iront voir le prêtre de la religion dite traditionnelle. Donc, pour moi, il y a un besoin, un réel besoin qu'il faut combler. Et il y a en plus la nouveauté, la prospérité, par exemple, du monde oriental en ce moment. On peut toujours se demander si ce n'est pas cette prospérité-là qui attire de plus en plus les jeunes. Et se disent que si en Asie, on réussit, si c'est là-bas l'avenir, la modernité, peut-être qu'il faut prendre également en compte leurs données spirituelles, leurs options spirituelles. Je ne sais pas, vous qui travaillez dans le domaine, si vous n'avez pas remarqué cela, qu'il y a un attrait matériel, ça veut dire lié au corps, qui pourrait pousser certains jeunes qui ont créé un vide entre-temps à penser qu'ils pourraient tirer également une certaine force à partir des spiritualités dites orientales qui prospèrent ici et arriver à leur but. Merci.
Moi, je pense que ce n'est pas pour rien qu'on a un pape actuel qui s'est vraiment tourné vers l'Asie aussi. C'est que... Enfin, je te laisse peut-être répondre. Tu avais une idée.
Non, bah, c'est vrai que dans ce que vous décriviez, il y a toute la problématique aussi qui se pose de l'inculturation d'une tradition religieuse différente à un pays qui n'avait pas les mêmes traditions. Donc c'est sûr que, enfin, je ne suis pas spécialiste des religions d'Afrique, mais il y a un côté probablement plus exubérant dans les cultes religieux, des choses comme ça. Donc c'est certain que c'est compliqué pour une tradition religieuse extérieure de pleinement correspondre rapidement aux aspirations ou aux traditions qui peuvent être celles qu'elles vont rencontrer sur place. Après, pour l'Asie, t'allais dire...
Pour l'Asie, ça sera peut-être pour la prochaine session, parce que les travaux vont se poursuivre, mais dans l'amphithéâtre pour tous. J'espère que le partage était fructueux dans l'atelier. On va en avoir un écho dans quelques instants avec Fanny.
Merci.